Le poisson aux écailles d'or, adapté d'un mythe hindouiste, interpénétration des rites, des croyances et des superstitions les plus disparates, a donné naissance en Inde à ce qu'on appelle l'hindouisme. Vishnu est à la fois la troisième divinité de la trinité brahmanique. Trimurti est la divinité suprême de nombreuses sectes hindoues, résultant de la fusion de plusieurs dieux et demi-dieux populaires. Il représente les forces de l'univers. Il apparaît périodiquement sur Terre pour y établir la loi. Entre deux apparitions, il sommeille sur les eaux cosmiques, puis éclot en un nouvel univers. À chaque cycle de création correspond un avatar du dieu Vishnu. Un des principaux avatars est celui du poisson, qui se rattache à l'ancienne tradition relative au déluge. Comme tous les jours au lever du soleil, le très sage Manu faisait ses ablutions. Alors qu'il levait vers sa barbe une main remplie d'eau, il y vit un curieux frétillement. C'était un poisson minuscule qui le supplia de lui laisser la vie. « Ai-je jamais tué la moindre créature terrestre ?» soupira Manu. Il mit dans le poisson dans un jar gorgé d'eau. Mais le lendemain, l'animal avait tellement grandi qu'il fallut le porter dans une mare. Manu avait coutume de voir des choses extraordinaires, et cela ne le troubla pas. Pas plus que lorsqu'on l'appela le jour suivant pour lui dire qu'un énorme poisson s'agitait au milieu de la mare. Il a ceux qui lui proposaient de couper la tête en rondelles et de le faire sécher, il le cloua le bec d'un regard de braise. « Ce poisson est sous ma protection, » grogna-t-il. Parce qu'il était aimé et connu de tous, on lui obéit. Manu fit porter le poisson dans un lac proche, mais bientôt le lac fut trop étroit pour le poisson, qui était maintenant devenu gigantesque. Son unique corne touchait presque le ciel et ses écailles étaient d'or. Manu ne s'en étonna pas plus. « Jette-moi dans la mer, sage Manu, » dit le poisson. « C'est là ma vraie place à présent. Est-ce que fut Manu, mais avant que l'animal ne plonge dans les flots d'émeraude, il se tourna vers le vieil homme et dit « Je te remercie, sage Manu, tu m'as protégé quand les hommes m'ignoraient ou désiraient me tuer. À mon tour, je vais te protéger. » Par Surabhi, la vache merveilleuse, voilà qui est extraordinaire, songea Manu en se demandant comment un simple poisson tout immense qu'il fût pouvait lui porter secours. « Écoute-moi bien, vieillard. Dans quelque temps, le ciel va s'assombrir comme jamais. Il sera si bas qu'il touchera la cime des arbres. Puis les nuages crèveront et déverseront leurs eaux sur le monde. Il pleuvra pendant des jours et des nuits. Il pleuvra jusqu'à ce que la mer, enflée de cette pluie inouïe, recouvre la terre tout entière. Le sage Manu sentit soudain sa poitrine se serrer plus fort et la peur l'envahit. La fin du monde ! Le poisson lui parlait de la fin du monde et l'animal continuait. Tu seras celui par qui le cœur de la terre continuera à battre, car dans le grand vaisseau que je t'enverrai, tu embarqueras un couple de chaque espèce vivante et les semences de toutes les plantes avant d'y mettre toi-même par sur l'heure, car tu besognes est lourd, car ta besogne est lourde. Et le poisson s'engouffra dans la vague de la mer. Le sage Manu regarda le ciel. Il était bleu comme une orchidée sauvage, mais il sut que le poisson disait la vérité. Alors il alla par mont et par veau quérir ce que l'animal lui avait demandé. Tout le monde le traita de fou, hormis un couple de jeunes paysans qui le vénéraient par-dessus tout, les semences qui savent se taire et les animaux à qui Manu savait parler. Il réunit tout son monde près de la mer et attendit. Un grand vaisseau accosta le rivage. Le sage vieillard fit monter ses protégés à l'intérieur. Bientôt, comme le poisson l'avait dit, le ciel s'assombrit. Il était si bas qu'il touchait la cime des arbres. Puis les nuages crevèrent et déversèrent leurs eaux sur le monde. Il plut pendant des jours et des nuits, il plut jusqu'à ce que la mer, enflée de cette pluie inouïe, recouvre la terre tout entière. Seul le bateau de Manu voguait, le reste avait été englouti à jamais. On ne voyait plus dans les flots tumultueux qu'une immense corne, celle de Vishnu, le poisson aux écailles d'or, celui que Manu avait sauvé tant de fois. Il y avait aussi le serpent Vasuki qui ondoyait autour du vaisseau. Manu s'en servit comme d'un corps et l'ayant attaché à la corne de Vishnu, il put partir vers le large, vers des eaux plus gaies, plus paisible. Ainsi le sage Manu sauva-t-il les hommes, les animaux et les plantes de l'épouvantable destruction. Je vais vous raconter une autre histoire. La sueur de Taora. Adaptée de la mythologie océane, la mer est un élément essentiel pour les populations insulaires. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, dans différentes régions d'Indonésie, l'existence de la mer est posée comme une donnée originelle au-delà de laquelle il n'y a pas à remonter. On ne cherche pas d'explication à ce fait primitif. Cependant, il existe quelques mythes qui relatent l'origine de la mer. On dit qu'il est sorti de l'éclatement de la poche à encre du poulpe primitif, ou encore qu'elle n'était d'abord qu'une infime quantité d'eau salée qu'un individu gardait enfermée et cachée. D'autres hommes voulurent la lui dérober, mais quand ils eurent soulevé le couvercle, l'eau se répandit, produisant un déluge. Voici une troisième version des faits que l'on remonte à Nauru en Polynésie. Au début était l'œuf qui flottait dans l'immensité infinie, noire et déserte. Aussi incroyable que cela paraisse, il n'y avait au centre de l'univers que cet œuf pâle et rien d'autre. Le temps passa, incommensurable. Puis l'œuf sembla se recroqueviller et soudain, sans raison apparente, il éclata. Oh, cela ne fut aucun bruit dans l'espace, à peine le souffle d'une vive lumière. Et Taroea apparut parmi les brebis éparpillées de coquilles. Ta Roéa, le maître sacré, le créateur de toutes choses, il se déplia lentement et emplit le ciel de son corps aux mille précautions, comme étonné de se trouver là. Il contempla l'univers autour de lui et il vit qu'il n'y avait rien, ni lumière, ni vent, ni montagne, ni arbre, toute chose qu'il avait dans l'esprit, car ses rêves étaient immenses. D'abord, après quelques petits débris de la coquille, il cria la foule des étoiles, qu'il jeta dans le ciel comme mille étincelles. D'un autre, il fit le soleil, puis, pétrissant dans ses mains musclées le plus gros des débris, il en fit une boule, la terre, qu'il déposa à ses pieds, la réchauffant de son souffle puissant. La boule s'enfla, jusqu'à devenir pareille à un énorme fruit de pierre et de feu. Alors, Ta Roéa se mit à l'œuvre, sans relâche pendant un temps qui parut une éternité. Il enleva le plus haute montagne, façonna les arbres, inventa le vent qui court sur le sable des dunes, modela les hommes, les animaux, les plantes qui serpentent sous la terre. Il fabriqua des volcans et leur cœur de lave, les nuages qui jouent avec le soleil, l'orage menaçant et la foudre, le bleu du ciel et la neige blême. Il creusa des ravins profonds, des parois vertigineuses. L'ange qui s'arrêta, hagard, éreinté, il crut avoir épuisé ses rêves. Il s'agenouilla sur le sol de pierre pour reprendre son souffle, et de son front luisant, de ses bras, de son ventre, coulèrent quelques gouttes de sueur. Elles roulèrent sur la pente des montagnes énormes, tumultueuses, et enchevèrent d'un coup de fabuleux travail qui venait l'accomplir. La sueur de Ta Roéa était devenue l'eau de la mer sans laquelle nul monde ne peut vivre, la mer où courent les bateaux, où le corail croît et rougit, où l'espadon virevolte, la mer qui recouvrit presque entièrement la terre, remplissant les abîmes, les gorges, les varins, la mer que Ta Roéa avait oubliée.